Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Quelles conditions faudrait-il réunir pour que les membres de la diaspora d'un pays en développement jouent un rôle productif dans la création d'entreprises dont leur état d'origine a besoin pour accélérer le développement? Cette question a donné lieu récemment à un débat au siège des Nations Unies à New York, débat organisé par le bureau du président de l'Assemblée générale, la mission permanente du Bénin auprès de l'ONU et le bureau du conseiller spécial du secrétaire général pour l'Afrique. Les transferts financiers opérés par les travailleurs migrants ou expatriés ont atteint ces dernières années, selon les Nations Unies, des sommes supérieures au montant de l'aide publique au développement. Vous suivrez dans ce magazine un exemple de l'économie de la diaspora avec ODA, l'Organisation pour le développement de l'agriculture en Haïti. Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Jean-Pierre Amissi Ramazani. ODA a été représenté au débat sur l'économie de la diaspora par son chef de projet et de développement, Ronald Saint-Cyr, que nous avons croisé dans une salle de conférence à l'ONU à New York. Il explique l'objectif et le travail de son organisation dans le cadre de la reconstruction d'Haïti.
Bon, mon nom, c'est Ronald Saint-Cyr. Je suis d'Haïti, j'habite ici à New York. Je suis à l'université et puis je travaille pour une organisation au niveau agricole en Haïti.
À l'université, vous êtes étudiant, vous êtes professeur?
Je suis étudiant à l'université Rutgers University. J'étudie la politique. Et puis, je vais me spécialiser dans le domaine de l'international, relations internationales.
Donc, de la politique à l'aide internationale, à l'agriculture, trois domaines complémentaires ou comment?
Bon, maintenant, je travaille dans le domaine de la coopération, puisque lorsqu'on parle de développement, on voit directement la politique globale au niveau national et international. Donc, moi, je suis... particulièrement au niveau de la politique internationale, mais particulièrement je travaille dans le domaine agricole au niveau programmation des projets, contrôle et gestion des projets, spécialement au niveau national en Haïti.
En fait, ce que vous dites là sur le plan agricole, c'est ce que vous faites comme travail ici aux États-Unis ou c'est des choses que vous planifiez pour Haïti?
Absolument, c'est quelque chose qu'on fait, on planifie des activités de projet, des programmes de formation, programmes de collecte d'argent et puis aller en Haïti pour mobiliser les masses, particulièrement les paysans qui ont bon besoin d'encadrement au niveau financier et puis au niveau des outils pour pouvoir développer des capacités, pour multiplier des connaissances particulières au niveau de grandir, je dirais, les connaissances pour pouvoir produire davantage, pour donner à manger. Puisque en Haïti, il y a un problème... je dirais, une large partie de la population se vit dans une situation très difficile. Il n'y a pas assez à manger. Donc, il a fallu avoir des programmes coordonnés pour soutenir les paysans pour pouvoir produire davantage.
C'était un programme de vulgarisation agricole pour les paysans haïtiens, c'est ça?
Bien sûr, c'est un programme visant à aider les paysans haïtiens, les encadrer, les donner des outils nécessaires pour pouvoir produire davantage, les sensibiliser, puisque la majeure partie des paysans haïtiens laissent, disons, les zones habituelles pour aller, disons, dans les villes. Ils ont laissé en arrière tous les biens. Disons, il n'y a pas de moyens pour pouvoir les contrôler, à rester dans les zones habituelles pour produire. Donc, c'est un manque de possibilités de production. Donc, ce qu'on fait, on essaie de planifier des programmes d'insertion, des programmes de sensibilisation, de mobilisation pour les aider à rester dans les zones, disons, habituelles pour produire, et puis pour développer, pour apprendre à lire et à écrire aussi, puisqu'on a un problème d'alphabétisation qu'on devrait s'élargir au niveau national. Puisqu'on a, disons, une bonne partie de la population en Haïti, à peu près 80% des Haïtiens ne savent pas lire et écrire. Donc, on supporte les programmes d'alphabétisation, on supporte les programmes de sensibilisation pour les paysans en général.
Comment se passent concrètement vos opérations pour Haïti? Est-ce que vous voyagez régulièrement là-bas pour aller au contact des paysans ou est-ce qu'il y a des gens que vous envoyez là-bas? Et comment est-ce que vous mobilisez les moyens, parce qu'il faut des moyens, pour pouvoir faire ce travail-là de vulgarisation agricole chez les paysans haïtiens qui sont, j'imagine, très nombreux.
Le bureau central, je dois dire le nom de l'organisation, c'est OUDA, Organisation pour le développement de l'agriculture en Haïti. Le bureau central se trouve à New York, à Brooklyn, New York. Et puis on a différents centres d'opération en Haïti. On a particulièrement dans les provinces, une ville elle s'appelle Miragouane. C'est le centre opération des activités. On a particulièrement des staffs qui sont sur place pour aménager, pour gérer les activités sur le terrain. Et puis on a des agents de développement qui sont sur le terrain, qui travaillent directement en contact avec les paysans pour donner les formations, pour donner des appuis logistiques, des appuis techniques, etc. sur certains programmes. On planifie des programmes, on cherche de l'argent. Et naturellement, il est très difficile pour nous de trouver de l'argent puisque on est tout petit, on est un non-profit, on n'a pas de profit personnellement pour l'organisation. Donc, il est très difficile. Donc, ce qu'on fait, on collecte de l'argent particulièrement des individus qui ont le désir de donner et de participer avec nous. Et puis comme ça, on planifie des programmes et puis on mène action.
Alors, pour être un peu plus concret, combien d'argent avez-vous mobilisé, par exemple, cette année, des moyens que vous avez mobilisés pour vulgariser l'agriculture, vulgariser le développement agricole en Haïti?
Pour l'année fiscale 2010-2011, on a planifié à rentrer, à gérer 50 000 dollars. Américains, ce qui va permettre pour nous de mener pas mal d'activités au niveau du terrain, puisque non seulement on travaille avec les paysans directement, en contact avec les paysans directement, mais aussi travaille avec les enfants des paysans, de la famille, puisqu'on sait, sans le support de la famille, on n'a rien à donner aux paysans. Donc, on travaille globalement avec eux. On investit au niveau des enfants aussi. On place des centres hospitaliers, des centres logistiques, des centres de premiers soins médicaux, etc. Donc, on investit au niveau des soins médicaux, on investit au niveau de l'éducation aussi, puisqu'on paie de l'argent pour les enfants, pour eux, de pouvoir aller à l'école, de payer, etc. On dépense aussi au niveau des outils techniques pour les habitants. On distribue des engrais, des choses comme ça concernant les produits agricoles. On investit pas mal d'argent pour eux. Comme résultat, on essaie de voir l'année prochaine, par exemple, si on pourra mobiliser, disons, dans différents parties, différentes zones de la République, puisque il y a différentes zones. Mais maintenant, on met des actions pilotes, puisqu'il n'y a, on n'y a pas assez de moyens pour investir à tous les côtés. Donc, on est dans le stade pilote à ce présent.
Haïti est divisé en départements, subdivisé en arrondissements et communes. L'Artibonite, le Centre, la Grande Anse, le Nord, le Nord-Est, le Nord-Ouest, l'Ouest, le Sud, le Sud-Est. Les principales villes, selon leur importance démographique, sont les suivantes: Port-au-Prince, Les Cayes, Gonaïves et Cap-Haïtien. Avant son indépendance en 1804, Haïti fut l'une des colonies les plus riches des colonies de la France grâce à sa vocation agricole. Jusqu'à la fin des années 80, les trois quarts de la population active travaillaient dans l'agriculture. Le manque d'infrastructures, d'irrigation, ainsi que l'érosion des terres et les dégâts causés par les ouragans ont réduit l'agriculture à des entreprises familiales de survie. Haïti exportait du sucre de canne, du café, du sisal et du cacao. D'autres produits complétaient les exportations commerciales telles que la noix de coco, le tabac, le coton, le maïs, le cacao, le riz, la banane, le vétiver et les huiles essentielles. Haïti est aussi le pays le plus pauvre des Amériques. L'ensemble des activités du secteur primaire s'est écroulé par manque de structure et par l'absence de stratégie de renouvellement des équipements. Les activités des autres secteurs, secondaires et tertiaires, ont vu leur croissance fortement diminuer en raison du faible taux d'investissement et du manque d'encadrement. Le pays, qui est exposé annuellement au passage des ouragans et des cyclones, a subi de très lourdes pertes en vies humaines suite au violent tremblement des terres du 12 janvier 2010 qui a détruit des milliers d'infrastructures et de maisons à Port-au-Prince, la capitale, mais aussi dans plusieurs villes et localités à travers le pays. Pour aider au redressement et à la reconstruction d'Haïti et appuyer son développement à long terme, le Conseil économique et social de l'ONU encourage les donateurs à veiller à ce que les ressources qu'ils se sont engagés à fournir et leur décaissement soient alignées sur les priorités reflétées dans le plan d'action du gouvernement et à allouer un financement supplémentaire. Il est également recommandé aux donateurs de faire en sorte que le Fonds pour la reconstruction d'Haïti participe activement à la mobilisation des ressources et adapte son appui aux priorités définies par le gouvernement. Le Conseil exhorte en outre les donateurs à répondre à l'appel global pour les activités humanitaires en Haïti lancé par l'Organisation des Nations Unies.
Est-ce que vous avez, disons, un appui ou un soutien du gouvernement haïtien dans vos opérations sur le terrain?
Non, je dirais on est privé. On est privé, on travaille avec les autres ONG sur le terrain, disons les autres organisations internationales sur le terrain. On travaille avec les collectivités territoriales, on travaille avec les mairies, les organisations de base. On n'a pas encore reçu, je dirais, l'appui du gouvernement. On n'est pas trop intéressé à travailler de façon très serrée avec le gouvernement. Et le gouvernement, ils ont, je dirais, les décideurs au niveau du gouvernement, ils ont en priorité, ils ont des priorités particulières. Donc nous, nous avons des priorités particulières, travailler sur la base, sur le terrain, pour pouvoir mesurer les résultats ce qu'on a produit, ce qu'on a investi. Bien sûr, on est ouvert de travailler avec le gouvernement, bien sûr. On a pas mal d'ouverture pour les décideurs du gouvernement pour collaborer avec nous. On n'a pas de problème là-dessus, mais jusqu'à présent, on n'a pas d'appui financier, je dirais, du gouvernement.
Depuis quand est-ce que vous avez commencé vos activités en Haïti?
ODA, l'Organisation pour le Développement en Haïti, agricole en Haïti, ça fait déjà 9 ans. Et sur le terrain, moi, je suis tout nouveau. Travailler avec eux, je suis responsable de développement projet pour développer les projets au niveau du terrain. Ils ont sur le terrain depuis fort longtemps. Mais ce qui est important maintenant, c'est d'aller plus loin, essayer de trouver de bons résultats à ce que d'autres organisations pouvant s'initier, disons, s'acquérir d'autres moyens pour développer d'autres outils de développement. Donc,
est-ce qu'il y a un impact pour le moment sur le terrain de vos activités?
Oui, absolument. Et on a pas mal d'activités sur le terrain maintenant. On essaie de promouvoir, disons, les capacités d'intervention des jeunes pour aller sur le terrain, mobiliser, travailler avec les habitants, puisque vous savez, la technologie maintenant, ça développe. Là, maintenant, on parle de développement de l'agriculture au niveau technologie, là, maintenant. Donc, il y a le projet qui sont très développés au niveau de l'agriculture maintenant avec l'aide des organisations internationales. Donc, nous essayons de voir, et, disons, de voir les modèles, etc., de comparer les modèles et puis sur le terrain, de mesurer ce qu'on peut faire pour aller plus loin.
Vous êtes ici dans une conférence organisée par les Nations Unies sur l'économie de la diaspora. En fait, qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion?
Naturellement, ça a été bien passé jusqu'à présent. Je pense que c'est quelque chose qui a rapport avec l'économie et puis le support de la diaspora. Si je prends l'exemple de la diaspora haïtienne, qui est très large ici aux États-Unis, qui participe de façon très, très large pour développer l'économie haïtienne. Je dirais, dans un an, la diaspora haïtienne aux États-Unis contribue largement millions et millions de dollars à l'économie haïtienne. Chaque parent, moi personnellement, je dois envoyer de l'argent pour mes parents en Haïti. Donc, d'autres personnes vont investir aussi à envoyer de l'argent. Il y a d'autres secteurs aussi qui investissent. Donc,
pour ne pas être indiscret, vous envoyez combien par an, bien par mois, à Haïti?
Je veux pas, par contre.
C'est indiscret, oui, je suis bon, ça va, je comprends.
J'ai pas beaucoup, moi. Disons, ce que j'ai, tout petit, j'ai envoyé. Mais en fait, je dirais, ces activités-là, ils sont très importants pour voir et comment on peut s'incliner ensemble pour développer des stratégies, comment on va mettre ensemble pour investir en Haïti. Donc, pour ce qu'on a, vraiment investir en Haïti. Donc, c'est une activité que je pense qui est très importante.
C'est sur cette note que s'achève Escale sur l'économie de la diaspora, illustrée par les activités de ODA, l'Organisation pour le développement de l'agriculture en Haïti. Ronald Saint-Cyr, le chef du projet de développement de ODA, a été notre invité. Escale est un magazine de la Radio des Nations Unies. Il vous a été présenté par Jean-Pierre Amissi Ramazani avec l'assistance technique de Florence Westergaard et de Peter Kurisko. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de l'avoir écouté. À la semaine prochaine.